Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma décliné présentement dans sa version extra ball ou un truc ball, comme l'appelle Yannick Dahan. Une petite piqûre de rappel sur une série ou un film qui nous avait échappé, qu'on rattrape donc avec joie. Joie, le mot est juste, puisqu'on va causer de Joy, le très beau film de David O. Russell qui est dispo désormais en DVD et Blu-ray. C'est chez 20th Century Fox et c'est l'occasion d'en parler avec mes camarades Yannick Dahan, justement. Salut Yannick.
Salut.
Et Stéphane Moïsaki. Salut Stéphane.
Salut Thomas.
Allez, c'est nos ciné extra ball spécial Joy et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Alors Joy, pour mémoire, c'est l'histoire du personnage du même nom incarné par la superbe Jennifer Lawrence, une jeune maman fraîchement séparée, un peu en galère dans le Massachusetts des années 80 qui va remonter difficilement mais sûrement la pente en inventant un balai serpillière révolutionnaire. Et en plus de Lawrence, il y a tout de même un cast 3 étoiles avec notamment Bradley Cooper, Robert De Niro et Isabella Rossellini. C'est un film qui, je crois, vous a enthousiasmé, messieurs, Stéphane.
Bah oui, c'est formidable. Il fallait quand même qu'on le rattrape. On en a mais pas oui. Parlé à Noël.
C'est vrai.
Et bon, moi j'avoue, j'ai raté en salle, mais je l'ai rattrapé là en Blu-ray. Ce qui est dommage effectivement de ne pas avoir vu en salle, c'est que c'est un vrai film de Noël. C'est ça qui est aussi très intéressant, c'est que c'est un ce qui n'était pas assez évident pour moi dans la façon dont le film était vendu, c'est que c'est un vrai conte de fées en fait, sur une intrigue mais parfaitement ordinaire et une success story en fait sur où il te montre que les merdes.
Oui.
Donc c'est galères. Assez voilà que les galères. Donc, je veux dire elle
parce que c'est une succession d'emmerdes.
C'est une succession d'emmerdes et comme toujours donc chez David O. Russell. Moi personnellement je trouve que c'est son meilleur film. Comme toujours chez David O. Russell, il y a une façon de magnifier le quotidien. Et de représenter les tensions en fait familiales entre les personnages et les présenter sous un angle en fait qui dans les drames en général ne sont pas vraiment, c'est pas aussi évident que ça quoi, c'est pas aussi mis en scène que ça. Voilà, donc ouais, non, moi je te dis, je pense que c'est vraiment son meilleur film. Jennifer Lawrence, elle bouffe l'écran, c'est son meilleur rôle. Tu me diras, c'est pas très difficile après Hunger Games et X-Men, mais
c'est une excellente comédienne,
c'est une excellente comédienne, c'est vrai. Voilà, c'est assez dingue de voir un film qui est censé sur un sujet qui t'enthousiasme absolument pas et oui. Qui t'enthousiasme pendant que tu regardes le film tout le temps, c'est-à-dire que t'as vraiment des c'est quand même un truc sur la télé, le téléachat, tu vois, donc enfin le sujet ça, tu vois, moi si c'est pas Chuck Norris ça m'intéresse pas tu vois, à la base
Yannick.
Je vais approfondir les choses. Je sens que Stéphane est tout mou. Je vais te permettre de rebondir. Moi, je trouve que c'est un film absolument brillantissime à plein de niveaux. Bon, première chose, ça m'a cassé les couilles l'accueil du film. Qui est passé relativement inaperçu,
oui, pas simplement le non-accueil du film.
Bon, pas simplement, effectivement, c'est la période de Noël et tout ce que tu veux, les gens ils ont autre chose à branler. Mais quand tu regardes toutes les critiques du film, c'est vraiment très très partagé, c'est-à-dire c'est pas, ils descendent pas le film, ils ne l'encensent pas non plus, mais sur la base de deux choses que je trouve complètement fallacieuses. Ceux qui l'aiment, ils voient une magnifique success story à l'américaine, alors que pour moi c'est la peinture de notre asservissement généralisé au code publicitaire, idéologique et mythologique du monde contemporain, et d'une, et de deux, ceux qui vont le casser un petit peu en disant bon, alors ça c'est la spécificité française des critiques qui, si un film américain n'est pas une charge violente, binaire et en général très con contre l'Amérique elle-même, ça n'a pas d'intérêt. Hein, c'est du Spielberg, c'est de la merde. Donc pour aimer un film américain, il faut que ça soit un réquisitoire social tout à fait pourri. Donc là-dedans, ces gens-là n'étaient pas satisfaits parce que Joy est une satire inoffensive de la société américaine. C'est encore une fois, ça me donne vraiment le sentiment qu'il y a de la merde dans les yeux des gens. C'est hallucinant. Pour plein de raisons. Ce film est d'une complexité structurelle, narrative et de mise en scène qu'il y a David O. Russell qui est capable de faire des trucs comme ça aujourd'hui. C'est pour ça que moi j'en parlais dans l'émission, dans mon émission, je disais que lui et Robert Zemeckis sont vraiment parmi les deux mecs les moins entre guillemets considérés. C'est-à-dire on en parle, on sait que ce sont des bons réals, mais on a l'impression qu'il y a jamais un enthousiasme.
C'est des mecs qui sont quand même nominés aux Oscars, pardon, et compagnie. Hein,
ça, je suis entièrement d'accord. Je dis par rapport à notre perception ici, où t'as jamais l'impression que c'est des films forcément attendus. Tu vois, il y a pas un buzz, ça ne suscite pas un intérêt. On les voit, on se dit c'est toujours pas mal. Et on va pinailler alors que
on les voit à peine The Walk,
le pinaillage sur ces films n'est absolument pas à la mesure de la complexité de la maturité de sa fabrication et de son propos. J'ai l'impression que ça passe que d'une oreille, ça sort de l'autre côté. T'as envie de leur dire écoutez Joy, c'est quand même l'histoire de l'émancipation d'une femme à travers l'instrument symbolique de son asservissement. Quand je dis ça, déjà, tous les abrutis qui vont y voir une success story à l'américaine, vous rentrez chez vous. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire ça. Vous dites n'importe quoi.
Enfin, c'est quand même dedans. Hein. Il joue avec ces codes-là. Hein.
Il joue. Tu peux pas me dire que...
Tu peux dire que c'est vicié.
C'est pas, évidemment. C'est-à-dire que tu peux pas le prendre au premier degré. Tu vas pas dire, je vais te raconter le biopic de la meuf qui a inventé un balai serpillière révolutionnaire et c'est tout le propos du film, justement. Et de le construire comme si c'était l'histoire de la première dame qui avait fait une révolution. Tu vois, c'est quand même la portée du truc n'est encore une fois qu'une soumission au système. C'est-à-dire que cette histoire d'émancipation passe par le succès et la réussite professionnelle, économique. Je finis juste. Il y a quand même des choses qui sont immédiatement ironiques dans le récit. Ça commence sur une espèce de recréation d'un soap-opéra des années 50, dont l'imagerie va progressivement contaminer le film. Alors là, je peux admettre qu'on puisse critiquer facilement le réquisitoire si ce procès était le seul et qu'il nous mettait, comme il le fait à certains moments, à distance, donc on y voit la satire ouvertement. On peut dire bon, ok, c'est un peu gros comme une maison, mais la grande fausse de David Russell, et là je retombe sur ce que disait Stéphane tout à l'heure, qui est forcément vrai, qui est cette incroyable façon dont il peint les familles dysfonctionnelles. Alors là encore, j'ai entendu, je termine mon long monologue et après je vous laisse, mais là encore, j'ai entendu plein de gens qui commençaient à dire. Bon, alors il se répète, patati patata, mais effectivement, c'est une signature, c'est quelque chose qu'il fait depuis un petit moment. Et ce qui est super intéressant, c'est que là, elle est encore plus outrancièrement exposée que dans ses précédents films, la famille. C'est-à-dire que quand tu vois De Niro, quand tu vois les personnages autour, ils sont ouvertement presque grotesques, entre guillemets, il en fait too much. Mais la façon dont c'est outrancier, tout en systématiquement ayant dans chaque scène la quintessence de la problématique psychologique, qui est d'une justesse pour le coup étonnante, fait que ça te fait passer la pilule. C'est-à-dire que tu adhères. Malgré la succession de galères, tu adhères à cette success story. Tu as envie de suivre cette nana. Tu as envie de te dire, elle va réussir à vendre son truc. Et tout le piège magnifique du film, qui est une manipulation jouissive, moi je trouve, qui m'éclate, c'est que quand elle en arrive à être sur cette scène de téléachat et qu'elle regarde les chiffres s'emballer et qu'elle est en train d'exploser le record de vente et que tout est construit comme le parcours du héros. Alors, genre, on parle souvent de Campbell, mais alors pour le coup, c'est une façon détournée de te le faire. Ce héros, c'est pas une femme, ce n'est pas un film féministe, c'est un héros au milieu. Visage, cette femme, cette meuf, c'est tous nos rêves d'émancipation à nous dans le carcan destructeur du système dans lequel on est. Et on se prend à être enthousiasmé et à trouver ça extrêmement jouissif. Ah ouais, c'est super, elle a réussi à vendre des balais dans un téléachat.
C'est tout le principe du fonctionnement du mec. C'est-à-dire que
et c'est ça qui est génial, c'est ça que je trouve génial, c'est qu'au final, il te parle l'émotion. Il te crée quand même, je finis là-dessus, il te crée quand même, le double final n'est pas innocent pour rien. C'est un peu un syndrome, tu sais, que moi j'avais pu avoir sur le labyrinthe de Pan, où je ne voulais pas admettre que la petite fille mourait à la fin et je ne retenais que le royaume parce que c'était tellement difficile à admettre. C'est exactement la même chose. Il te fait un double final, c'est-à-dire qu'il te montre cette nana qui va aller se venger d'une couille qu'on lui a fait. Elle ressort avec son blouson en cuir, elle met ses lunettes noires, elle est souriante, genre j'ai gagné, tu te dis super femme, puis bam, t'as un jump de voir ce qu'elle devient plus tard, c'est-à-dire femme d'affaires esselée qui regarde comme dans Citizen Kane, il se rappelait son souvenir de jeunesse, elle regarde son souvenir de jeunesse et elle est en train dans ses yeux de se dire ah, c'était vraiment ça que je voulais. Mais il revient
sur la réussite de la Lala avec son blouson en cuir qui sourit, mais d'un sourire carnassier. Donc c'est terrible parce que cette émancipation, elle est quand même soumise complètement à un asservissement à ce système-là. C'est ça que je trouve être brillantissime. Il te le fait passer comme une lettre à la poste, mais en même temps, tu ressors et tu te dis, mais attends... Est-ce que c'est si enthousiasmant que ça? Je ne suis pas sûr. Et pour moi, ça parle à tout le monde. C'est notre le problème, il est identitaire aujourd'hui. Il est même plus simplement une question de féminisme. Ça concerne tout le monde. Notre asservissement est devenu identitaire à un système. Excusez-moi. Voilà.
Non, le truc que moi je trouve aussi passionnant avec le film, c'est que lui-même en fait arrive à se sortir de ses propres influences. C'est-à-dire que même si j'aime beaucoup ses précédents films, de toute évidence, American Hustle, c'est Scorsese digéré. Hein,
Bien sûr.
Et le truc, c'est que un des défauts que moi je trouvais dans son cinéma, c'est la lumière. J'ai toujours, en fait, je vois toujours en fait des mouvements de caméra magnifiques, une façon de donner beaucoup de dynamisme en fait à ce qui est en train de se passer à l'écran, et t'as ça aussi là-dedans, hein. Mais toujours avec une lumière de film suédois, quoi. Et du coup ça m'a toujours un peu sorti de là, sauf que là le fait de situer ça à Noël, le fait d'utiliser la neige, le fait de tout ça, ça équilibre, je trouve, la chose. Et en fait, du coup, il y a énormément de passages symboliques. Tu parlais de l'asservissement au système. Le truc, c'est que tu as aussi l'asservissement à la famille. Tu as énormément... Par exemple, moi, j'aime pas trop la façon dont le film utilise les rajeunissements numériques. C'est toujours les rajeunissements numériques sur De Niro, par exemple, ce qui est toujours un peu... Voilà. Alors qu'en fait, il avait une scène... Il a une idée, en fait, de mise en scène qui est toute simple, hein, toute conne. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'elle passe pour qu'elle va voir son père à l'usine, elle passe devant ce portrait géant en pochoir de Niro, en fait, tel que tu le connais, c'est-à-dire ouais. Le De Niro des années 80, quoi, qui est au-dessus d'elle et qui lui pèse dessus comme enfin, tous les échecs du père, en fait, lui pèsent sur les épaules, alors que lui, il les présente comme des réussites. Et le truc, c'est que c'est ça qui est, moi, je trouve intéressant dans le film. On s'en fout, en fait, nous, ça nous fait pas kiffer, en fait, de vendre des balais chiottes. Mais le truc, c'est que elle, ça la fait kiffer parce que c'est son idée.
Les balais serpillères.
Ouais, voilà. Mais c'est son idée, ça vient d'elle, en fait. C'est un truc qu'elle a pensé depuis le début sur une de ses souffrances.
Oui.
Parce qu'en fait, elle se blesse et voilà. Et donc, et personne ne ferait attention à elle. Et tout le monde se fout de sa gueule. Et elle va dire si, regardez, je vais vous montrer, j'ai raison. Et à chaque fois, en fait, qu'elle va se confronter aux gens qui essaye de l'entuber. Voilà, là, d'un seul coup, ces scènes dont tu parles, c'est aussi des scènes de ce que tu as l'habitude de voir dans des films mafieux, quoi, tu vois, je veux dire, et là, tu te dis...
Voilà, c'est ce que tu disais sur le conte merveilleux, enfin, c'est quand même la particularité de Russell, elle est d'investir quand même des codes et des genres bien établis. Alors, c'est vrai qu'on a... plein de films qu'on va dire entre guillemets, pour aller vite, postmodernes qui digèrent des influences très spécifique. Lui, c'est un des rares aujourd'hui à tacler le merveilleux, à tacler le conte de fées.
Parce que je pense que de son point de vue à elle, c'est un conte de fées. C'est-à-dire que c'est Cendrillon.
Oui.
C'est la logique de sortir de voilà. Et le c'est pour ça que j'ai dû. Moi, je trouve que c'est mi-figue mi-raisin. La fin, je trouve pas que ça soit vraiment je veux dire, on peut le voir de manière assez noire. Mais c'est c'est quand même une personne qui est arrivée au stade où elle en est et en fait qui aide les gens. Tout simplement parce qu'elle sait qu'elle a été...
Elle veut aider, elle se retrouve face entre guillemets à son prince charmant avec qui il ne s'est jamais rien passé et qui est dans un rapport de compétition lié à l'entreprise. Cette espèce de long regard sur ce petit papier qui était le symbole de sa création personnelle, qu'elle a visiblement oublié parce que maintenant elle est rouage d'un système. Alors son émancipation passe par sa soumission à des règles d'un système. Moi, je l'ai vraiment trouvé terrifiant. Il m'a semblé évident. C'est-à-dire qu'il y aurait eu juste ça. J'aurais pu adhérer totalement à ce que tu dis. Mais comme il y a un aller-retour sur ce personnage qui est censé être émancipé, donc qui prend tous les atours de la punk attitude et du sourire carnassier, j'ai trouvé que c'était plus amer qu'autre chose.
Après, quand tu t'intéresses un peu à... Même s'il il a vraiment dévié de l'histoire originale, le personnage de Joy, le vrai personnage de Joy, c'est une présentatrice pareil, de télé, enfin elle a fait des trucs de télé achat comme ça, elle a effectivement créé ce truc et elle a une espèce d'empire derrière elle, et ça c'est pour les ricains, enfin aux États-Unis c'est une vraie success story, c'est pas un truc, je veux dire, si tu parles de ce principe là, ils sont un féodé des systèmes, nous on regarde ça de l'extérieur en tant qu'européen,
mais ça je le conteste pas, que ça soit perçu comme une réelle success story, oui, quand je dis c'est notre asservissement généralisé, c'est qu'aujourd'hui c'est l'idée même d'émancipation ou de success story qui ne peut pas passer en dehors des règles du système économique tel qu'on l'a mis aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, ce que dit ce film et que disent d'autres films, il y a plusieurs autres films qui sont sortis sur ce sujet-là, c'est que notre devenir identitaire ne passe plus que par une valeur économique. Et c'est ce que dit le film à travers toute la famille qui sont complètement soumis à ça et
complètement conditionnée à ça et jusqu'au final reste dans cette logique là et que elle, même si elle a la posture entre guillemets du PDG, au final c'est un PDG qui est en train de réaliser qu'il est devenu ce qu'elle ne voulait pas être.
Ouais, sauf qu'il y a
quand même une inventrice.
Sauf qu'il y a quand même une logique là. Je suis d'accord avec toi sur jusqu'à un certain niveau. On peut le lire comme ça, c'est pas le souci. C'est juste qu'il y a quand même une logique aussi derrière où elle est. Et ça, c'est pour le coup, c'est purement encore une fois typiquement américain. Elle devient une espèce de figure individualiste qui n'en fait qu'à sa tête en fait pour se sortir de voilà, malgré le fait qu'elle se foute dans la merde auprès de tout ce que les gens ont pu lui donner. Je veux dire les premiers conseils que son ex-mari lui dit de ne pas suivre en fait, le truc avec l'histoire du brevet au début où tout le monde ici les avocats nous ont dit qu'il fallait faire etc et elle le fait. Et du coup d'un seul coup elle va dire ok, je vais me sortir de là et je vais aller les voir par moi-même pour les enfiler. C'est une pure logique individualiste qui est au cœur du succès à l'américaine, de l'américaine succès.
Je suis complètement d'accord. Ouais. Mais c'est d'ailleurs toutes ces multiples pistes de lecture. Et puis encore, on n'a pas vraiment parlé très longuement, mais ça, c'est plus image à la pluie, je suis désolé.
Il y a Thomas qui sue, là.
Non, mais toute cette mise en scène, parce qu'on parlait de cette imagerie de soap qui vérole au début le film, mais de manière très légère, et qui, à un moment donné, il se permet des cassures, des ruptures de ton, des moments où t'es littéralement perdu dans les scènes, et tu te dis, attends, et ça, c'est génial.
C'est pour ça que pour moi, c'est aussi là où c'est le fait que le mec revienne sur des histoires de scènes familiales, d'engueulades, et tout ça, etc. C'est là où c'est faux, je trouve que, justement, au contraire, le mec, il recrée ça, t'as la scène. Précisément, la scène, la première fois que De Niro revient et c'est mis en parallèle avec le soap, c'est que c'est du vrai cinéma, la façon dont c'est filmé et la façon dont les mecs, ils font des espèces de mouvements de caméra dynamique pour montrer les relations entre lui et sa fille qui est au milieu entre la mère. Enfin voilà, c'est là-dessus, c'est brillant.
Ça reste le mec qui filme la famille comme personne d'autre n'arrive à le faire aujourd'hui, hein, c'est hallucinant.
Et ce mec, c'est David Russell, donc, dont le film Joy est disponible, on l'a dit, en DVD et Blu-ray, et même sans doute en VOD, j'en suis absolument sûr. Merci à tous les deux, bande de cochons de capitalistes. Merci à Jules, à la technique et autant que pour l'accueil. Rendez-vous sur nosciné.com pour retrouver toutes nos anciennes émissions et à très vite pour un nouvel épisode.
Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizi. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à William Scheller et à PNL. Disponible sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine!